Mais des fois, on est parfaitement plus productif.
Non, c'est comme moi.
Moi, c'est sûr que si j'attaque avec le genre, l'avantage, c'est que quand même,
Vrai leader.
Oui, oui. Je pense
que c'est bien. À la maison, c'est devenu le truc quand ça gagne.
Vous écoutez La Grenouille, c'est Giono sur la route, une émission spéciale imaginée en partenariat avec le Théâtre National de Marseille-la-Criée à l'occasion de la venue sur la grande scène de la Criée du 25 au 28 mai prochain du spectacle Le bout de la route, un texte de Jean Giono mis en scène par François Rancillac. Pour cette émission spéciale, nous avons choisi de suivre deux des sept acteurs du spectacle. Ils s'appellent Tiphaine Rabot-Fournier et Tommy Luminet. Tous deux sont allés au début du mois de mai, présenter en avant-goût du spectacle dans différents lieux de la ville, comme parmi d'autres le restaurant Pain & Compagnie, la bibliothèque des archives départementales, ou le bar à vin Le Petit Longchamp, une petite forme, Giono sur la route, imaginée et mise en scène par François Rancillac à partir des entretiens du journaliste et poète Jean Amrouche avec Jean Giono, réalisé au début des années 50. Vous entendrez donc au cours de cette émission un extrait de cette petite forme, Giono sur la route, enregistré à la Bibliothèque des archives départementales des Bouches-du-Rhône le 3 mai dernier, une interview des deux acteurs et quelques échanges et réactions des spectateurs qui ont assisté à la présentation de cette petite forme. Vous entendrez également le metteur en scène, François Rancillac, nous dire quelques mots de son travail sur ce Giono sur la route et sur le spectacle Le bout de la route. Mais pour commencer, c'est Catherine Le Gueule, du service des relations avec le public du Théâtre de la Criée, qui commence par nous dire quelques mots sur les petites formes proposées régulièrement par le Théâtre de la Criée.
Voilà, on va commencer. Merci d'être venu en tout cas. Voilà, c'est une petite forme donc, qui est en introduction, en apéritif du spectacle de Giono qu'on accueille à la fin du mois. Le bout de la route, qui est une pièce de Giono, et donc on a voulu vous présenter autour de ça un petit spectacle qui va vous être présenté par Tommy et Tiphaine, qui jouent le spectacle à la fin du mois.
Catherine, c'est toi qui t'occupes à la Criée depuis cette année de manager un peu les petites formes. C'est la première année que ça existe à la Criée. Comment c'est né l'idée de ces petites formes?
Eh bien, c'est-à-dire qu'on a eu plusieurs années un peu difficiles. Donc, comme on n'avait pas la grande salle, comme tu sais, on ne pouvait pas imaginer beaucoup plus de choses parce qu'on ne pouvait pas mettre beaucoup plus de public. Bon, maintenant, enfin, on est sorti de tout ça. Donc, c'est Florence Lhermitte, qui est secrétaire générale du théâtre, qui, dès le début, c'est-à-dire qu'on achète les petites formes en même temps que le spectacle. Donc, tous les spectacles ne proposent pas des petites formes, mais certains proposent ce genre de choses, comme on a fait pour la courtisane amoureuse ou pour sa loute. Donc on a décidé cette année d'acheter des petites formes qu'on propose gratuitement dans des lieux. Et le but, c'est d'aller chercher des nouveaux publics, de les proposer ou pour des élèves dans des classes ou des associations. J'ai fait ça pour des groupes d'amis ou bibliothèques, ou là, celle-là se prête bien à faire dans un restaurant ou dans un café. Voilà, et ça nous permet d'aller chercher un nouveau public. Et ensuite de le faire venir à la Criée. Et aussi, je trouve ça vraiment bien de mettre le théâtre à disposition des gens en dehors du théâtre pour donner aussi une autre image du théâtre. Il y a des gens qui ne pensent pas venir au théâtre parce qu'ils pensent que ce n'est pas pour eux, alors que ce n'est pas vrai. Et en venant les chercher, en leur montrant que les comédiens, c'est des gens comme les autres, eh ben, ça leur donne envie de venir au théâtre, enfin j'espère.
Et en quoi ça consiste alors le travail pour toi autour de ces petites formes?
Alors pour nous, c'est de les proposer à nos groupes ou alors de voir l'endroit qui pourrait être en adéquation avec ça. Alors selon ce qui est présenté. Là c'est vrai que sur cette petite forme de Giono, c'est un entretien et on boit un verre autour de ça. Donc ça nous donne d'autres idées de le faire comme on a fait chez Pain et Compagnie, en brunch ou alors au Petit Longchamp. C'est un bar à vin, donc c'était parfait. Donc c'est vraiment n'y a pas une petite forme qui ressemble à l'autre, elles sont mises en scène. Donc à partir de là, nous on regarde qu'est-ce qu'il faut, comment ça se passe, et on essaye de trouver l'endroit qui s'adapterait bien à ça. Et puis aussi ce qu'on nous demande, parce qu'il y a des gens qui nous disent « Ah ben nous on aimerait bien l'accueillir », alors on regarde si c'est possible, comme ici, cette bibliothèque nous a demandé s'ils pouvaient l'accueillir, et on trouvait que c'était un bon endroit pour ça, voilà.
Bonsoir, je viens pour Giono sur la route.
Oui, vous allez réserver ?
Non.
Ok. Voilà, c'est pris en compte. Donc après, machine à café sur votre droite.
Machine à café.
À partir de 19h.
Ok, merci. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ce soir à la bibliothèque départementale des archives du Bouches-du-Rhône ?
Bah, en fait, moi j'aime Giono, quoi. J'ai lu pas mal de ses bouquins, donc c'est pour ça que je suis venu ici, quoi. Je travaille juste à côté, donc en passant, là, j'ai vu qu'il y avait ce spectacle. D'autant plus gratuit, donc j'en profite. C'est vrai que je me suis posé la question où c'est que pouvait bien se cacher la salle de théâtre. En fait, c'est pas une salle de théâtre, c'est une salle de lecture, quoi.
Ouais.
Donc, ça change rien du tout, quoi.
Et vous, qu'est-ce que vous voulez chercher ?
Oh, la Provence, entre autres, mais sa façon d'écrire aussi, quoi. La description de ses personnages dans ses livres, j'aime beaucoup, hein. Ouais, voilà.
Vous aimez Pagnol aussi ?
Oui, oui, oui. Et alors c'est marrant parce que je crois que j'avais lu La fille du boulanger. Et au fur et à mesure que je lisais, Giono, quoi, La fille du boulanger, je me dis, putain, il y en a un des deux qui a plagié l'autre, quoi. Et en fait, Pagnol n'a jamais écrit La fille du boulanger. Il a juste mis.
C'est la femme. Hein.
La femme, pardon. Ah, peut-être il a écrit La femme du boulanger.
Et il y a La fille du
plus ouais. Oui, bah, qui sort actuellement au cinéma, fait par Auteuil.
Ouais.
Donc, oui, mais j'aime Pagnol aussi, hein, notamment sa trilogie. Hein, j'ai beaucoup aimé.
Merci beaucoup. François Rancillac est metteur en scène. Il est aussi, depuis cette année, le nouveau directeur du théâtre de l'Aquarium à la Cartoucherie de Vincennes. Il a été auparavant co-directeur de la Comédie de Saint-Étienne, l'endroit où il a créé le spectacle « Le bout de la route » de Jean Genot en janvier 2010. Un spectacle qui sera joué du 25 au 28 mai sur la grande scène du théâtre de la Crie. François Rancillac nous explique pourquoi et comment il a créé, en parallèle à ce spectacle, la petite forme « Giono sur la route ».
Non, c'est une chose d'abord que j'ai goûtée quand j'étais à la Comédie de Saint-Étienne, puisqu'on faisait un gros travail aussi hors les murs, voilà, pour rencontrer de nouveaux publics. Donc j'ai vraiment découvert ça là-bas et j'ai voulu, en arrivant à l'aquarium, d'aller à la recherche d'autres spectateurs. Donc on fait systématiquement une ou deux petites formes légères, itinérantes, donc qui sortent des murs du théâtre pour aller au-devant de nouveaux spectateurs. Donc c'est très simple, c'est un ou deux acteurs, quasiment pas de scéneau, ça peut se planter n'importe où, à toute vitesse. On peut jouer ça autant dans des salons, dans des appartements, que dans des cafés, que dans des classes, etc., etc. L'idée, voilà, c'est d'amener un petit moment de théâtre, un petit extrêmement simple, voilà, donner un peu comme une sorte d'apéritif, un peu le goût et l'envie d'aller plus loin et ensuite d'aller découvrir la grande forme au théâtre même. Voilà. Donc on l'a essentiellement joué à Paris dans des appartements, cette petite forme, il y a un tout petit peu, ou une fois dans un café
ouais.
Et je sais pas, où on a fait une scolaire.
Une association.
Oui.
On a pas fait scolaire.
Non, peut-être pas avec vous, oui. Voilà. Et donc en fait, on l'a proposé aux différents théâtres qui nous ont invités avec le spectacle. Et voilà, donc c'est pour ça qu'en amont, Tommy et Tiffen viennent, voilà... propager la bonne parole.
Donc bonjour à tous.
Merci.
Je m'appelle Tommy et avec Tiffen, nous allons vous jouer une sorte de causerie. Un montage réalisé à partir d'entretiens, 22 exactement, mené par Jean Giono et Jean Amrouche. Alors pour vous préciser, peut-être Jean Amrouche était un journaliste, poète, écrivain, et qui s'est dans les années 50 spécialisé dans ses grands entretiens avec les grands auteurs du XXe siècle, notamment avec André Gide et Paul Claudel.
Donc la petite forme, elle a vraiment ce but-là, hein, donc de donner un peu le goût aux gens, de retrouver les acteurs et puis de goûter concrètement à une œuvre de Giono. Puis aussi, c'est un vrai petit exercice artistique. Hein. Pour moi, ça n'a rien à voir avec ce qu'est le bout de la route, l'esthétique du bout de la route. C'est vraiment un théâtre vraiment de... Comment dire ? Simplissime, mais vraiment de l'enjeu étant d'être vraiment de partage, un moment de partage avec les gens. Hein, c'est-à-dire qu'on parle avec eux, on les regarde, on est avec, il y a du bruit à côté, on regarde, il y a un bruit. C'est-à-dire c'est l'inverse hein, de la concentration de presque de l'objet, presque un peu voilà, de cette fenêtre qui s'ouvre sur le monde de la cage de scène, un monde un peu à part. Là, on est vraiment dans le même réel que les spectateurs et on parle avec eux comme des gens lors d'une conversation. Ce qui, l'air de rien, est un sacré exercice hein, pour arriver à trouver quelque chose d'apparemment hyper simple, à la limite de l'improvisation. Voilà, ce qui est un travail pour moi aussi très intéressant qui ne correspond absolument pas à ce que je fais avec les acteurs sur un plateau. Donc, c'est des objets aussi très, très intéressants et qui sont des sacrés exercices. On en parlait tout à l'heure avec les spectateurs et qui sont des exercices assez périlleux pour les acteurs. Hein. Regarder un spectateur qui vous écoute, c'est pas facile du tout. Comme c'est pas toujours facile aussi pour un spectateur d'être regardé par un acteur.
Ah, c'était super. C'était moderne, là, hein, la mise en scène. Je veux dire, pas, peut-être moderne, c'est peut-être original. Hein, c'est original, cette femme en Giono. C'était. Non ? Ça vous a. Hein, cette femme Giono. Et hop, après, changement de personnage. C'était très amusant. En plus, le petit coup à boire.
L'idée, c'était d'inventer quelque chose de tout à fait autre. Donc là, je suis parti sur ces entretiens entre Giono et donc Jean Amrouche, et donc qui est un écrivain, poète, mais aussi grand journaliste littéraire hein, des années 50-60, qui s'était spécialisé dans des très longs entretiens qui étaient diffusés intégralement à la radio. Là, vous voyez, il y a 22 entretiens de 3 quarts d'heure chacune. C'était une autre époque qui passait à l'ORTF. Celle qu'il a faite avec Claudel, je crois, c'est 34 ou 35. Je sais pas. C'est énorme, énorme. Tout passait intégralement. Hein. Et ce qui me permettait, donc c'est vraiment, là, c'est vraiment une causerie. Vraiment une causerie. C'est donc Jean Amrouche qui va chez Giono et qui lui pose des questions avec les spectateurs qui prennent un peu la place de copain de Giono, le copain d'Amrouche qui viendrait avec lui pour rencontrer le grand maître. Et donc on va chez Giono, qui les reçoit plus ou moins bien, plutôt bien, parfois s'énerve un peu. Voilà, l'idée étant vraiment de donner plutôt, là c'était plutôt essayer de que ce soit Giono qui raconte un peu son univers d'écriture, comment il écrit, le rapport à la fiction. Sachant que la difficulté pour moi, c'est que Giono ne parle quasiment jamais de son théâtre, et en l'occurrence quasiment jamais du bout de la route. Donc le peu que j'ai rajouté, qu'on entend dans La Petite Forme, dans Giono sur la route, c'est du Rancillac, c'est-à-dire que je l'ai rajouté. Enfin, c'est des choses que j'ai été chercher dans de la correspondance ou dans des choses qu'il aurait dites à tel ou tel que j'ai réincrusté parce qu'il n'en parle pas. Et d'ailleurs, même dans La Petite Forme, on s'est amusé à avoir un Giono qui ne veut pas parler de son théâtre et encore moins du bout de la route. Amrouche glissant quelques confidences quand Giono s'éclipse pour aller chercher à boire. Expliquant qu'en fait, semble-t-il, le bout de la route correspond à une période très douloureuse de la vie de Giono, il n'a pas envie de revenir là-dessus. Voilà. Donc, d'une certaine façon, on crée un peu du suspense autour de cette pièce, cette fameuse pièce dont Giono ne veut pas parler. Et à la toute fin, Amrouche, insistant quand même lourdement, arrive à glisser un tout petit extrait de la pièce. Et là, on fait lire un spectateur qui joue le rôle principal, le rôle de Jean, Tiffen, lisant le rôle de Mina, le rôle qu'elle joue dans la pièce. Mais c'est vraiment 5-6 répliques, enfin, c'est très très court, simplement pour faire un tout petit peu entendre cette langue-là, voilà, improvisée avec un spectateur qu'on accapare pour l'occasion.
Mesdames et messieurs, bonsoir, merci d'être parmi nous ce soir. Nous sommes heureux d'accueillir dans la salle d'actualité de la bibliothèque départementale une proposition du Théâtre de la Criée. En avant-première du spectacle mis en scène par François de Rassillac au Théâtre de la Criée à la fin du mois, en l'occurrence Le Bout de la Route, une pièce de Jean Giono. Donc ce soir, vous allez voir une petite forme qui nous a été proposée par le Théâtre de la Criée, mise en scène aussi par François Rassillac et qui est... se base en fait sur les entretiens qu'a eu Jean Giono avec Jean Amrouche autour de l'écriture de sa pièce Le Bout de la Route. Voilà, bon spectacle, merci.
Bonsoir. Extrait de Giono sur la route, enregistré le 3 mai dernier à la bibliothèque départementale des archives des Bouches-du-Rhône.
Une fois, vous m'avez dit que le texte que vous écrivez a une volonté. C'est quoi la volonté d'un texte ?
Une volonté infinie. Je n'en suis pas le maître. Je suis le sujet ébloui. Ouais. Je suis le sujet de mes personnages. Quand ils arrivent, ce n'est pas ma volonté qui les crée. Ils arrivent quand eux le veulent. Parfois au cours d'une promenade, à la faveur d'une lecture, d'une saveur particulière de pipe, à la faveur d'un bruit particulier dans la maison, d'une musique, une phrase de Mozart, de Bach, peut me donner la coloration d'un personnage. C'est une sorte de lumière. Et c'est dans cette lumière que brusquement le personnage surgit avec sa forme. Et c'est un personnage qui a toute une histoire d'ailleurs, lui, des paysages, des comparses. Mais évidemment, cette histoire, je l'invente. Mais j'ai l'impression que c'est le personnage qui me la suggère, qui me force à l'inventer telle qu'elle est en réalité. Ah, cette période est formidable pour moi, parce que alors le travail se fait sans aucun effort, mais suggère. Je n'écris pas. Je note tout ce que je peux dans ma mémoire, ou j'écris sans aucun plan sur la feuille vierge ce que le personnage me raconte. Le personnage qui est à côté de moi, avec tous les autres personnages qu'il amène avec lui. Et tout ce petit monde gambade ici et là, traverse la bibliothèque, rentre, sort. Enfin, ils font tout un tas de trucs, tandis que moi je pourrais être en train d'écrire un autre livre, de manger en famille ou de discuter avec des amis. Enfin, comme maintenant. Ils existent au même titre que les personnes réelles qui habitent ma maison, m'accompagnent dans ma vie quotidienne, me suivent dans la salle à manger, traversent la table sur laquelle nous mangeons. Le drame lui-même, qui est le roman en cours, m'accompagne. C'est comme un petit théâtre personnel, de poche, pour ainsi dire, et qui se déplace avec moi, et où tous les personnages sont constamment en action. Par miracle, ma maison est une maison harmonieuse. Ceux qui vivent avec moi, ma femme, mes deux filles, laissent avec un tact exquis et une intelligence très fine la place des personnages autour de moi, autour d'elles. Je suis donc parfaitement à mon aise, à manger. Après ce moment-là, où seule l'imagination travaille, à un moment, je sens qu'il faut passer à l'étape suivante, à l'écriture. Mais au moment même où je prends ma plume et que je la trempe dans l'encre, au moment où je vais écrire, à ce moment-là, tout s'effondre, tout disparaît. Et je dois tout recommencer, tout réinventer au fil de l'écriture. Car alors, il y a autre chose qui entre en ligne de compte. Le style, la construction, le vrai travail de l'écriture. Désormais, le personnage est moins libre d'aller où il veut, comme il veut. Peu à peu, c'est moi qui lui impose mon plan, mon cadre, mon rythme, ma volonté propre. Parfois, il devient réticent, se livre moins qu'avant, ou même se rebiffe. Il faut alors que je le domestique, que je le calme. Parfois, j'essaie de l'appâter en lui taillant un nouvel épisode à sa mesure, mais ça ne marche pas toujours. Alors l'écriture bloque et je n'arrive plus à avancer. Et là, je sais que le seul moyen d'en finir, c'est de sortir, d'aller faire une petite promenade. Attention, si je sors avec en poche un crayon et un papier, c'est foutu. Le personnage se méfiera, je ne pourrai pas écrire une seule note. C'est comme si il me guettait, il voulait me surprendre pour lire. Alors, je sors avec un cahier de papier à cigarette. Moi, qui suis fumeur de pipe. Et j'écris sur le papier à cigarette avec une allumette brûlée. Ça, mon personnage ne s'en aperçoit pas. Maintenant que j'en parle, peut-être va-t-il se méfier de ma malice.
C'est curieux parce que beaucoup de romanciers affirment posséder l'intelligence complète de ce qu'ils écrivent, de leurs personnages.
Ah ouais, bah, je les plains beaucoup, moi pas du tout.
En fait, vous êtes par rapport à vos personnages comme dans la nuit.
Ah non, au contraire, je suis dans leur propre lumière, la leur, mais pas la mienne. Je ne les éclaire jamais, ils sont entièrement libres. Parfois, ils sont extraordinairement rétifs, parfois, ils ne veulent pas en sortir. Par exemple, j'ai été obligé de réécrire 4 fois le grand troupeau, parce que le personnage du capitaine, malgré toute l'armée allemande que j'avais à disposition pour le tuer, refusait de mourir. Il s'imposait. Et c'est lui qui a déformé le livre au point où il est maintenant. D'autres personnages m'ont échappé pour réapparaître plus tard dans un autre livre. Et vous n'y pouvez rien. Ce sont eux qui décident.
Est-ce que d'une certaine manière, vous vous sentez possédé, vampirisé par vos personnages?
Vampirisé, le mot est un peu fort. Vous pensez à quoi?
Au risque de vous fâcher, je pense évidemment aux gens du bout de la route. Mais si, parce qu'il dit qu'il est mangé par le fantôme de sa femme.
Ouais, il dit ça, vous m'étonnez.
Si, il dit ça. Si, si, je vais vous retrouver le passage. Attendez. C'est là, j'ai le texte avec moi. Vous voulez bien lire avec moi? Voilà. Vous vous souvenez, à la fin du texte, Jean vient de se rendre compte que Nina est folle amoureuse de lui. Et il ne peut répondre à cet amour parce qu'il est lui-même amoureux d'une femme qui est là, quelque part dans la salle, mais invisible. Oui, parce qu'elle est la créature imaginaire de Jean. Un fantôme. Alors. Vous lisez Jean et moi je lis Nina.
On va lire la page.
Alors, elle est là?
Oui.
Toujours?
Toujours.
Tu la vois?
Oui.
Où?
Là-dedans.
Je ne la vois pas.
Parce que tu ne l'aimes pas, moi je la vois.
Qu'est-ce qu'elle fait?
Elle nous regarde.
Qu'est-ce qu'elle pense?
Que c'est bien.
J'ai peur.
N'aie pas peur, c'est moi tout seul qui suis sa nourriture.
C'est moi tout seul qui suis sa nourriture. Je suis là, dans tes bras.
Elle sait pourquoi tu y es. Je suis doux et homme, sans jalousie. Elle sait que je ne peux aimer personne en dehors d'elle. Et que mon cœur, c'est sa maison.
Jean.
Voilà, petite fille, tu sais maintenant.
Cette fois, je sens que tu es mort.
Enfin.
C'est dans le bout de la route, ça?
Vous ne vous en souvenez pas?
Non, je dois l'avouer, non.
C'est si mal écrit que ça?
Venez, on va faire un tour dans le jardin.
Bon, mais on va devoir arrêter là, hein. Je suis désolée, on n'en tirera rien de plus aujourd'hui. Bon, attendez, je reviens tout de suite. Je vais vous le ramener pour que vous puissiez le servir avant de partir.
Merci.
C'est une émission spéciale sur la grenouille consacrée au spectacle Le bout de la route de Jean Giono, mise en scène de François Rancillac, et de la petite forme Giono sur la route qui a été présentée au début du mois de mai dans différents lieux de la ville, tels que la bibliothèque des archives départementales des Bouches-du-Rhône. Une petite forme jouée par Tiffaine Rabot-Fournier et Tommy Luminet.
Vous avez eu la chance de voir les dernières représentations.
Et si vous venez à Marseille, vous verrez les dernières représentations du
bout de la route. Ouais.
Ça donne envie de relire en Giono.
Vous verrez, c'est un très beau spectacle.
Oui, d'aller voir la pièce. À la criée.
À la criée, ouais. Du 25 au 28 mai. Et y a, je pense qu'il doit y avoir des tracts à la sortie.
On vous verra alors.
Ouais.
Ouais.
Et ce sera bien vous.
Ce sera tout autre chose. On a vraiment des personnages différents. De...
Et vous pourrez dire.
Je les connais. Les gamins.
Donc, Tiffaine et Tommy, c'était la dernière fois que vous présentiez ce Giono sur la route. Ça fait 2 ans que vous fréquentez cet auteur et à la fois Le bout de la route et ce texte d'entretien Jean Amouche. Quels sont les moments qui vous restent en mémoire de tout ça?
Le stress qu'on a eu
C'est quand même la pièce sur laquelle on aura le plus stressé. C'est quelque chose quand même qui est assez incroyable. Ouais. Les moments de blanc aussi, ouais. Ou des trous de texte, des fois. Ouais. Je suis assez douée pour ce genre de choses, hein, tout de même.
Non, mais c'était hyper intéressant, cette expérience avec Tiffen. On avait déjà eu ça quand on était à l'école. On avait été faire des petites formes dans les lycées. Et là, on retrouvait un peu ce genre de choses, mais de jouer vraiment un peu comédien 4x4, quoi. On va partout. Et du coup, on essaie de s'entraider à deux. Donc, comme tu dis, Tiffen, avec des moments de blanc, des oublis de texte, des moments de panique aussi, et du coup on essaye de se rattraper mutuellement. Et en tout cas, on a fait des rencontres extraordinaires avec les gens à chaque fois, et qui étaient enchantés. On a fait plein de lieux différents, des appartements, des restaurants, des bars, des bibliothèques, enfin plein de lieux complètement différents, et à chaque fois il y avait une très belle rencontre avec le public, et je crois que c'est ça le plus intéressant, en fait.
Ouais. Là, bon, moi j'ai assisté à deux petites formes hier à la bibliothèque et ce soir dans ce bar petit Longchamp. On a l'impression quand même que ce sont des gens qui vont au théâtre. C'est le même public que le théâtre, non ?
Bah oui, mais en même temps, là ce matin, on a été dans un lycée technique où ils vont pas forcément souvent au théâtre. Et c'était une écoute différente. Il y a eu des choses différentes, mais il y a quand même plein de choses qui sont passées assez étonnantes pour moi. Et en fait, on se rend compte que ce soit des avertis du théâtre ou non, ben en fait, il y a quand même un message. Ça fonctionne. Il y a un message qui passe. Il y a quelque chose. Il y a une relation.
Ouais. Alors on parle beaucoup de cette proximité avec le public dans ces petites formes. Quel est l'enjeu pour vous en tant qu'acteur de cette proximité avec le public?
Ça demande surtout d'être, en tant qu'acteur, il faut qu'on soit là à fond, à 100%. On est obligé d'être concentré, d'être vraiment ensemble. Ça nous demande une complicité avec Tommy assez énorme. Et ce qui est génial, c'est qu'on voit tout de suite quand le public est distrait, quand le public ne suit pas, on le voit. C'est ça, on ne peut pas passer à côté. Donc ça nous oblige toujours à renouveler le texte, à essayer de trouver la chose qui fera qu'on arrivera à faire passer, à transmettre la pensée de Jean Giono. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire que dans des petits lieux. C'est pas en étant sur un grand plateau comme à la Criée fin mai. On ne voit pas le public quand on est avec des projecteurs. Là, on le voit, il est à 2 mètres. Et c'est génial, parce que...
Ça permet de préciser le jeu ou de...
Aussi, après, du coup, on est moins dans des placements, dans on suit la mise en scène, mais on peut aussi se permettre des libertés, vu qu'en plus, à chaque fois, on change de lieu. On est obligé de faire avec le lieu, avec l'acoustique, avec les différents mobiliers.
C'est plus un travail sur la présence que sur le jeu.
C'est plus un travail sur la présence, ouais. Et ça nous demande toujours d'être concret, d'être toujours très, 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 très concret.
Il y a une espèce de spontanéité, d'instant du présent, être toujours dans le présent, parce que, comme disait Tiffen très justement, on doit toujours se plier au mobilier, à l'espace, aux gens, combien il va en avoir. Et du coup, ça nous force, en tant que comédien, je trouve ça très enrichissant, à être toujours dans l'instant du présent, la spontanéité,
on ne peut pas mentir.
Ouais, être très, très sincère, le plus sincère possible.
Et j'imagine que la préparation pour ce genre de moment doit être très différente de la préparation pour le plateau, quoi.
Ouais.
Mais c'est vrai que quelque part, le plateau, on est un petit peu protégé, entre guillemets, parce qu'on est sur un plateau de théâtre, il y a les lumières, les décors, les costumes, les partenaires, on a souvent un quatrième mur, donc on n'est pas en interaction avec le public, donc effectivement, il y a quelque chose qui est peut-être quelque part plus... qui est un cocon, quoi. Ouais. Alors que là, on se jette dans la gueule du loup, on y va.
Et ça se passe comment, la préparation, là, alors, pour cette histoire?
Eh bien là, souvent, on s'est tout de suite trouvé quelque chose dès qu'on a commencé l'année dernière à jouer cette petite forme, vu que c'est quand même les entretiens de Jean Giono et de Jean Amourouche. Donc c'est quand même deux intellectuels qui parlent ensemble. Nous, c'est pas forcément un texte qui nous est proche. Donc juste avant de jouer, à chaque fois, on se redisait tout le texte, toute la pièce, mais avec nos mots, nos propres mots. Voilà. Et beaucoup plus court, et pour que la pensée soit fluide, et pour qu'on sache exactement là où on va, pour qu'on trouve le chemin de la pièce.
On ait des repères, à chaque fois on se disait des fois les fins de phrases ou les débuts, et comme on disait très justement Tiffen, avec nos mots, et du coup c'est ce qui nous donnait un fil rouge, quoi, pour continuer, pour y aller.
Alors c'est pas un texte très proche de vous, Tiffen, tu disais ça à l'instant, mais en même temps, vous l'avez fréquenté pendant 2 ans, ce texte-là, qu'est-ce que c'est fréquenté raconter un texte comme ça pendant 2 ans. Hier, Tiffaine, quand je t'entends parler, je me dis, mais elle est amoureuse de Giono.
Oui, c'est ça, mais oui, c'est vrai. Quand je me suis retrouvée à Manosque dans sa maison et que j'ai acheté une carte postale avec son portrait, je l'ai trouvé tellement beau, cet homme. Et c'est vrai qu'en lisant, grâce à François, en lisant Jean Giono, en jouant Le bout de la route, forcément, on est obligé d'aimer les mots et d'aimer cet auteur. C'est vrai.
C'est la première expérience d'une fréquentation aussi longue d'un texte pour vous là.
Ouais, oui.
Tout à fait, complètement. Ouais, complètement. Moi, je sais que moi, quand François m'a donné le texte, j'ai été extrêmement surpris, extrêmement déstabilisé, parce que je ne pensais pas que ça me parlerait à ce point-là. J'avais encore beaucoup d'a priori sur cet auteur, quelqu'un de régionaliste, qui était un petit peu passéiste. Et en fait, pas du tout. C'est hyper concret, hyper, hyper actuel. Ça parle de la mort, de l'amour, du deuil. Enfin, c'est quelque chose qui est très fort. Et moi, ça m'a marqué en tant que jeune comédien. J'étais vraiment très surpris, quoi.
En même temps, au bout de 2 ans, on doit avoir envie de passer à autre chose.
Effectivement, je ne cache pas qu'il y a eu quelques moments où le texte peut lasser, la forme peut lasser. Alors, c'est ça qui est très intéressant, le travail avec François, c'est pour ça qu'il essaye de suivre le plus possible de représentation pour nous refaire des notes, pour qu'on soit toujours dans la réinvention. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit on aimerait bien toucher un autre texte, essayer d'aller voir une autre mise en scène. Mais c'est tellement une belle expérience, une belle aventure que... Moi, il n'y a que du bon, franchement.
Ouais, mais oui, parce que chaque représentation... toutes les représentations sont vraiment différentes. C'est jamais la même chose. C'est jamais vraiment le même spectacle. C'est incroyable. On est toujours dans la... On est toujours avec les mêmes mots, avec les... Mais c'est toujours une expérience incroyable.
Ouais. Pour terminer, comment vous avez envisagé la suite de votre parcours ?
En espérant optimiste, en espérant d'avoir du travail. Voilà, parce que c'est vrai qu'à la fin du bout de la route, je pense pour Tiffaine et pour moi, on va être à la recherche de travail. Donc voilà, en espérant de faire le plus longtemps possible ce métier qui est quand même génial, quoi.
Oui.
Ok, merci. Merci beaucoup.
Vous connaissez le pays de Giono ?
Oui. Manos ?
On est allé jouer là-bas et on est allé voir sa maison qui est restée intacte.
Le jade franche, le jade terre de roux.
Ah oui, vous connaissez beaucoup.
Le cadre d'ortier, le sommet de l'Arin.
Ah nous on est.
C'est dans le contexte là. Là vous imprégnez.
Aller à Manosque, on a essayé de visiter un peu le coin, mais c'est vrai qu'on a...
Vers l'Ure, vers gauche de l'Ure,
ouais.
Le pas de Rodortier.
Oui.
Vous voyez les boris.
Oui, tout à fait. Ouais.
Et il en parle tellement bien que c'est vrai que c'est un
pays qui attire. Il faisait les bergers du temps des moutons anciens,
ouais.
Maintenant. Il faisait des genres de Kern, mais grand, haut de 4 mètres,
ah oui.
Pas des petits cairns comme
ouais.
Ça, des cairns de 4 mètres pour étendre dans le brouillard,
ouais.
Pour les voir de loin.
Ouais.
Et il y a un qui est nommé le pape et l'antipape qui était à 400 mètres de. C'est le nom de ces cairns.
D'accord.
C'est dans les Basses-Alpes que vous connaissez.
Pour terminer cette émission spéciale, le metteur en scène François Rancillac nous dit quelques mots sur Le bout de la route, un spectacle que François Rancillac a créé en janvier 2010 à la Comédie de Saint-Étienne et qui sera présenté du 25 au 28 mai prochain sur la grande scène de la Criée.
Le bout de la route, je vous raconte un peu au moins le début, parce que c'est tout simple. Hein. Alors ça se passe pas du tout en Provence, déjà. C'est une pièce qui se passe à Trémigny, qui est un petit village qui existe, qui est pas trop, quoi, 40 km de Grenoble,
ouais,
à peu près.
Ça, ouais.
Hein. Trou du cul du bout du monde, tout petit village, dans lequel, d'ailleurs, pour l'anecdote, Giono avait l'habitude d'aller quand il fuyait la chaleur de Manosque. Et donc là, un soir... On frappe à la porte d'une ferme et rentre un peu sans qu'on l'y invite un gaillard, un géant, un peu au sourire fêlé, qui qui demande en fait un peu de chaleur et un bol de lait pour passer la nuit. Et en fait, cet étranger va être accueilli dans cette ferme, qui est une ferme assez étrange, puisque c'est une ferme qui est un peu frappée par la mort ou par un deuil impossible. Il y a plusieurs années, le maître de maison est mort, et donc sa femme, Rosine, a dû reprendre les rênes de cette maisonnée en luttant contre la dureté du quotidien, et donc, semble-t-il, s'est durcie, un peu carapassonnée, et elle s'appelle maintenant Rosine la Sauvage. D'ailleurs, tout le monde s'étonne que Rosine, qui n'est pas du tout hospitalière, laisse rentrer ce jeune homme chez elle. Plus récemment, la toute jeune sœur du maître de maison aussi est morte de manière tragique. Une pierre a dévalé la montagne, est venue se ficher dans le front de Marthe. Elle a aussi une nature assez violente. Et depuis, la mère de cette jeune fille, qui est la grand-mère dans la pièce, est devenue folle et s'enferme dans sa chambre où elle gémit à longueur de journée, refusant de voir qui que ce soit. La seule petite herbe, un tout petit peu, petite promesse d'avenir dans cette maison, encore une fois, tétanisée par la mort, c'est Mina, qui est la fille unique de Rosine, qui a 17-18 ans, qui jouait par Tiffaine, et qui a le béguin pour Albert Bouscatier, bûcheron.
Oui, et donc, qui après tombe amoureuse de l'étranger.
Voilà. Et donc le Bouscatier, racontez pas l'histoire trop vite. Et le Bouscatier donc, descend tous les mardis de sa montagne pour compter fleurettes à sa belle jusqu'à ce que Rosine le foute dehors à coups de pied aux fesses, parce qu'il n'est pas vraiment la bienvenue dans la maison. Et en fait, Jean va... Ça, c'est un peu le propre de l'étranger, un peu comme dans le théorème de Pasolini. Jean va un peu permettre à tous ces gens-là de tourner la page, peut-être de vivre le deuil, comme on dit. Ils se remettent à parler de tous ces morts. Donc, du coup, les choses qui ne se pouvaient même pas se dire arrivent à se dire. Rosine, du coup, se réapprend qu'elle est pas que la propriétaire de la maison, mais elle est aussi une femme et aussi une mère, qu'elle a le droit à la tendresse, qu'elle a le droit au sourire. Les deux jeunes gens osent se dire une déclaration d'amour devant Rosine. La grand-mère va sortir de sa chambre, se parler à Jean, enfin, quelque chose se met à bouger là où tout était absolument tétanisé. Et la vie reprend ses droits, c'est un peu le regain, pour reprendre le titre du roman de Giono. La vie revient, la sève se remet un peu à circuler, là où il n'y avait plus de printemps possible, à tel point qu'effectivement, Mina, Désir va tellement la travailler qu'elle va tomber folle amoureuse de cet étranger, Jean. Et lui envoyer signe sur signe, puis comme Jean ne voit rien, les signes deviennent des perches, jusqu'au bout, et Jean ne voit rien. Cet étranger ne voit rien. Et nous, spectateurs, nous apprenons qu'il est peut-être aveugle, effectivement, ce qu'il est en fait amoureux d'une autre personne vivant un amour fou avec une femme fantôme. C'est-à-dire que Jean, en fait, on le comprend assez vite, a quitté sa maison là-bas, où il vivait lui aussi le grand amour de sa vie, et a quitté sa maison le jour où il a découvert que sa femme le trompait. Donc il est parti, en fait, on le comprend, en fait, pour mourir, pour se suicider d'épuisement dans la forêt. Il n'est même pas arrivé à ça. A vu une petite lumière, a entendu trois notes de musique, puisque Albert est aussi accordéoniste. Et en fait, à chercher une sorte de sursis avant de mourir. Et en fait, à essayer, du coup, se cherche une façon de vivre en n'étant ni vraiment dans la vie, ni vraiment dans la mort. Et du coup, initié aussi par la grand-mère, qui est un drôle de personnage, qui est un personnage un peu sorcière, va être initié au monde des fantômes, au monde de la fiction. C'est pour ça que j'insiste tellement aussi dans la petite forme, ces personnages fantômes qui tournent autour de Giono. Donc Jean va d'une certaine façon continuer à vivre le grand amour de sa vie, mais avec une femme totalement fantomatique, totalement idéalisée, totalement fantasmée, et qui du coup l'empêche d'être vraiment en relation avec le réel. C'est ce que je trouve étonnant dans la pièce, c'est quelque chose qui moi m'intéresse beaucoup, cette question que je pourrais appeler un peu la question de l'empêchement. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a tout dans la vie pour être heureux, pour vivre sa vie, n'est pas là, n'est pas vraiment dans le réel. Qu'est-ce qui fait qu'on est toujours le sentiment d'être un peu à côté du réel, à côté de sa vie aussi. Alors que Jean a tout pour lui, il est grand, il est beau, il est intelligent, tout le monde le regarde et, à la langue pendante, les hommes comme les femmes, il a le cœur sur la main. Et pourquoi il n'arrive, il est bon, mais pourquoi il n'est pas vraiment là ? D'ailleurs, même d'une certaine façon, cette bonté va devenir insupportable pour les personnages autour de lui, en disant, ben, le personnage de Mina le dit très clairement, il fait tout ce qu'on lui demande, il est tout le temps à nous rendre service, mais en fait, il n'est pas là. Et comme si être gentil avec les gens, ça ne suffit pas. À un moment, les autres, les gens ont besoin d'être en relation. Et que la gentillesse et la bonté de Jean, en fait, devient au bout d'un moment un masque et une protection. Ça, c'est question de la bonté, que c'est beaucoup dans les âmes fortes qu'on évoquait. Comment aussi la bonté devient au bout d'un moment presque dangereuse et nuisible. Voilà. Et quand Jean finit par réaliser que Mina n'est pas qu'une gentille petite fille, n'est pas que la fiancée de son petit bûcheron, quand il comprendra que c'est vraiment à lui qu'elle s'adresse et qu'elle lui demande quelque chose, il sera incapable d'entendre et il fuit. Il s'en va, emmenant son fantôme. Mais voilà, comme si Jean, encore une fois, avait inventé ça pour tenir le coup, ceci. Une façon de parler de la perte aussi. Comment est-ce qu'on gère la perte des êtres les plus chers, que ce soit par une trahison amoureuse, on va dire, ou par la mort. Comment on arrive à combler ce vide-là et comment on tourne la page ou qu'on ne la tourne pas. Enfin, comment... voilà, c'est une question moi, qui m'intéresse aussi beaucoup, par exemple, chez un auteur qui m'est très cher, qui est Lagarce. Cette question du deuil impossible, l'acceptation de la mort, de sa mort ou la mort des autres, c'est bien bien compliqué à vivre. Ou la question de l'empêchement aussi, qui est très forte chez Lagarce aussi. Avec ce sentiment d'impuissance. Pourquoi on n'a plus ce sentiment parfois d'être un peu le fantôme de sa vie que l'acteur de sa propre vie. Et je trouve que c'est des choses qui sont, que moi je sens dans l'air. Sentiment que les gens ont toujours l'impression de ne pas vivre vraiment la vie qu'ils aimeraient vivre. Et pourquoi ? En général, il n'y a pas beaucoup de raisons.
Pourquoi ne pas se donner les moyens ?
Voilà. Alors, il y a des questions matérielles, mais les questions matérielles, on les règle toujours. Non, on peut. On peut. Après, c'est pour prendre des risques. Question de confort aussi. Mais on peut. Je trouve que ça crée une sorte de sentiment d'impuissance, au sens fort du terme, enfin, de ne pas pouvoir, de ne pas savoir, et de vivre à côté. C'est aussi en ça que je trouve que ce texte creuse très très profondément aussi cette question-là, qui est une question fondamentale. Alors pour l'anecdote, par exemple, Giono a écrit ça, donc on y faisait allusion tout à l'heure, un moment critique de sa vie. Il est marié, il a, je sais pas si ses deux filles sont déjà, elles sont déjà nées à ce moment-là, en 31, je crois, peut-être. Enfin,
une.
Enfin bref, il a une vie de famille et en fait il connaît une passion amoureuse extrêmement forte. Bon, c'est un homme à femme, hein. Il aura plein d'histoires. Mais là c'est une histoire extrêmement renversante et bouleversante pour lui, avec une jeune femme qui s'appelle Simone Terry, c'était H-E-R-Y, qui semble-t-il était quelqu'un d'assez exceptionnel, une femme très... Attention. Femme extrêmement engagée et politiquement et intellectuellement. Je crois que c'était quelqu'un de très très à gauche et qui était féru et très passionné de littérature irlandaise, ami de Joyce, proche du jeune Beckett, etc. etc. Et c'est quelqu'un qui fera lire à Giono le théâtre de Singe. Et on voit dire dans la pièce comment il y a vraiment du baladin du monde occidental, j'en parlais tout à l'heure. On sent que la pièce n'est pas très très loin du bout de la route.
Oui, des fois on n'est pas forcément plus productif.
Enfin, c'est comme moi.
Moi, c'est sûr que si j'attaque avec le genre, l'avantage c'est que quand même.
Oui,
je pense que c'est à la maison.
C'était une émission spéciale imaginée en partenariat avec le Théâtre National de Marseille La Criée autour du spectacle Le Bout de la Route, un texte de Jean Giono, mis en scène par François Rancillac, et de la petite forme Giono sur la route, qui a été présentée début mai par La Criée dans divers lieux de Marseille. Vous avez pu entendre au cours de cette émission François Rancillac, metteur en scène, Tiffaine Rabaud-Fournier et Tommy Luminet, acteurs, Catherine Legel, du service des relations avec le public, du théâtre de la Criée, et quelques spectateurs présents lors des présentations de Giono sur la route. Le texte des entretiens de Jean Amourouche avec Jean Giono et le texte du spectacle Le bout de la route se trouvent tous les deux aux éditions Gallimard. Merci d'avoir été à l'écoute. Plus d'infos, contacts et réservations pour la Criée au 04 91 54 70 54.
Voilà. Moi j'aime la musique. C'est une musique que j'ai. Elles sont bien, elles sont marrantes.
Alors, faites-tu du théâtre ? Alors, non. C'est que des ateliers de.
Quel endroit au Marchand?
Non.